Bonjour, merci d'être toujours aussi nombreux pour accueillir Édouard Glissant. J'excuse Greg Germain qui est retenu dans une réunion et je ne prendrai pas la lourde tâche de présenter Édouard, mais en tout cas de l'accueillir, de le remercier de sa présence fidèle. Il y a quelque temps, lorsque nous avons parlé de cette matinée, de la semaine du Tout-Monde, on souhaitait, nous, à la chapelle du Verbe incarné, parler de ce qui s'est passé aux Antilles cet hiver. Et Édouard nous a dit qu'il souhaitait pouvoir réfléchir avec vous à ce qui s'est passé là-bas, ce qui continue, à la situation particulière qui a soudainement envahi nos postes de télévision, vos postes de télévision, en apportant un regard différent sur peut-être sur ce que vous avez pu penser des Antilles auparavant. Et Édouard a voulu ouvrir sa réflexion et l'avancer plus loin sur le monde avec vous. Voilà, donc Édouard, merci à toi. Je te laisse la parole.
Merci Marie-Pierre. Je dois d'abord remercier Marie-Pierre Bousquet, Greg Germain, la chapelle du Verbe incarné, à qui je suis fidèle, mais qui me sont fidèles aussi. Et je vais essayer de discuter avec vous de problèmes politiques. Et c'est toujours compliqué de discuter de problèmes politiques, étant donné que beaucoup d'entre nous ont des positions partisanes, c'est-à-dire qu'ils ont déjà une idée du parti qu'ils doivent prendre dans leur pays et dans le monde. Et que ça c'est toujours difficile de réunir plusieurs opinions et plusieurs tendances de pensée dans une même. Ce que je voudrais essayer, c'est de dépasser ces positions pour voir ce qui se passe en fonction de la dimension monde. Parce que le monde s'impose aujourd'hui à nous comme une dimension nouvelle. Et c'est, je ne dirais pas que nous le voulions ou non, parce que ce serait embêtant de dire cela. Le monde s'impose à nous comme dimension, et heureusement, parce que ça change nos perspectives et ça change, quelle que soit notre opinion ou nos positions politiques, ça change notre conception, en tout cas notre conception de la manière d'aborder et de concevoir le politique. Alors vous connaissez ma position que j'essaierai de partager avec vous, qui est que le politique n'est valable que si il ressort d'une poétique. C'est une idée tout à fait nouvelle, parce que quand on dit une poétique, tout le monde pense à il écrit des poèmes, comme les jeunes gens qui, à 17 ans, font des poèmes parce qu'ils veulent exprimer leur être, etc. etc. C'est un peu ça, parce qu'il ne faut pas mépriser cette naïveté. Mais ce n'est pas seulement ça. Le poétique, c'est une intuition du monde. Et ça, c'est beaucoup plus grave, n'est-ce pas, que la diction, l'écriture, la diction, la récitation de poèmes ou de poésie, etc. Le poétique, c'est la divination, l'intuition et la divination de notre rapport à nous-mêmes, à l'autre et au monde. Pourquoi c'est cela, pourquoi on appelle cela le poétique et pas, par exemple, le politique? Parce que le politique fait intervenir une dimension sociale, de vie en société, n'est-ce pas ? de vie commune qu'il faut mettre ensemble, qu'on le veuille ou non. Alors là, on peut dire qu'on le veuille ou non, n'est-ce pas? Le politique, c'est relève de d'une situation particulière aux humanités d'aujourd'hui, qui est la situation, la solitude fondamentale de chacun de nous. La solitude fondamentale de chacun de nous en face de la nécessité du rassemblement dans la mondialité. Il y a une solitude fondamentale. Pourquoi? Parce que la constitution dans l'histoire des communautés humaines s'est faite à partir d'un certain nombre de, disons, d'accords tacites qui sont, par exemple, la religion, la conception de l'État, etc. Et la religion ou la conception de l'État déterminait les morales. Aujourd'hui, il y a une individuation fondamentale, c'est-à-dire chacun de nous est un peu ramené à une solitude en face. Je ne dis pas une solitude sur tous les plans, mais en face des problèmes éthiques, des problèmes moraux et des problèmes sociaux. Par exemple, si on est catholique, on n'est pas obligé d'avoir la même opinion sur la question de l'avortement, de l'emploi des préservatifs, de est-ce que les prêtres doivent être mariés ou non, ou est-ce que, etc. Il y a une dissociation du choix moral qui n'est plus rassemblé par l'unanimité par exemple, du sentiment religieux ou du sentiment civique ou du sentiment... Bon, par exemple, on n'est pas d'accord sur la laïcité, n'est-ce pas ? Il y a des conceptions presque religieuses de la laïcité, c'est-à-dire intolérantes. On ne doit pas faire ça parce que c'est contraire à la laïcité, etc. Et chacun de nous est ramené à cette individuation. C'est ce qui caractérise les temps modernes, c'est que plus nous connaissons le monde et plus nous sommes ramenés à une espèce de nécessité qui est de décider par nous-mêmes, hein, au fond de nous-mêmes, sans l'aide d'aucun système, par exemple, aucun système religieux. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas religieux. Ça veut dire que l'unanimité religieuse ne marche plus. Ce qui marche, c'est la foi personnelle. C'est ça? Et dans ce cas, il nous reste l'intuition et la divination de notre rapport à nous-mêmes, à l'autre, à autrui, mais aussi à l'autre, non pas seulement autrui ça peut être le voisin, mais à l'autre lointain, encore inconnu, peut-être que nous ne connaîtrons jamais, mais qui est là, présent à nos consciences et à notre inconscient et au monde. Alors le monde, c'est quoi? Le monde, c'est une certaine vision, une certaine intuition de ce qui s'est passé dans les histoires des humanités. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé deux choses. Il s'est passé que les communautés se sont constituées les unes contre les autres ou avec les autres, d'où les guerres nationales, continentales, etc. Et en même temps, avec un sentiment de rapprochement, ce qui a déterminé et l'apparition de notions plus ou moins vagues qu'on ne peut pas, sur lesquelles on ne peut pas mettre un contenu réel, comme par exemple en Occident la notion d'universel. On dit qu'il y a de l'universel pour nous rassurer, pour... C'est l'universel qui tombe. On dit qu'il y a de l'universel pour se rassurer, parce qu'en même temps, par exemple, que les sociétés occidentales conquièrent le monde, avec tout ce que ça peut supposer comme ravage, comme massacre, etc., et elles ont besoin de se justifier. Et par conséquent, elles vont dire on apporte la civilisation au monde. Et pourquoi on apporte la civilisation au monde? Parce qu'il y a un universel que nous prenons en charge et que nous assumons, etc., etc. Et cet universel nous permet de dire qu'on civilise les Africains, qu'on fait évoluer les populations nouvelles de la Caraïbe et des Amériques, etc., et que, par conséquent, on a collectivement une responsabilité et que cette responsabilité est chapeautée par un certain nombre de notions comme celle d'universel. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Chacun de nous est seul devant la chose. On ne peut plus dire, en tant que Français, je participe d'un mouvement qui est le mouvement de civilisation du monde, etc., etc. On ne peut plus le dire. Et on est obligé de se retourner sur son individuation pour essayer de considérer comment vivre, c'est-à-dire connaître et respecter en même temps le monde. Non pas seulement d'un autre lieu à un autre point du monde, mais dans les rapports de tous les points du monde à tous les points du monde. C'est ça qui est nouveau. C'est pas de Paris à Jérusalem, comme écrivait Chateaubriand. Je crois que c'est lui, n'est-ce pas, qui a écrit Itinéraire de Paris à Jérusalem. C'est pas d'un lieu à un lieu aujourd'hui, c'est de tous les lieux possibles à tous les lieux possibles, et ça crée une espèce de vertige en nous, n'est-ce pas? La connaissance du monde est un vertige, ce n'est plus une projection, ce n'est plus de Paris à Jérusalem, c'est de tout, de partout à partout. Et cette dimension nouvelle fait que nous sommes obligés de réfléchir à la chose suivante. D'où ça vient? Comment ça s'est fait? Comment sommes-nous passés d'une conception, de projection de ma communauté dans le monde à une espèce de divagation totale du monde. On est tous les jours à Beyrouth, au Congo, en Amérique latine, dans les Cévennes, à Marseille, à Ouagadougou. On est tous les jours partout. Et il nous en vient ce vertige qui fait que nous sommes obligés de prendre notre temps, c'est ce qui s'appelle une individuation, même si c'est une individuation partagée, c'est ça, mais de prendre notre temps et de balbutier, de chercher nos idées, de n'avoir aucune certitude préalable à tout. C'est la chose nouvelle aussi. On peut dire que, par exemple, en Occident, le XVIe siècle, c'est la Renaissance, les idées nouvelles. Le XVIIe, c'est le classicisme, la rationalité. Le XVIIIe, c'est le siècle des Lumières, etc. Chaque période, le XIXe, c'est la sensibilité du monde, c'est le romantisme, etc. En Occident, chaque période a sa ligne de force, bien précise. Le rationalisme cartésien et classique n'a rien à voir avec les Lumières, Rousseau et Voltaire du XVIIIe. Ça peut être en continuité, ça peut être en opposition, mais ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, c'est impossible. Nous ne pouvons pas définir une ligne de force de notre rapport au monde. Nous ne pouvons pas dire c'est comme ça. Et de toute manière, si nous le disons, nous nous trompons. Parce que le monde est imprévu et nous surprend chaque jour. Chaque jour, nous essayons de comprendre ce qui s'est passé et chaque jour, nous sommes surpris. Alors, ce que je voudrais étudier avec vous, et non pas étudier, mais ce que je voudrais discuter avec vous, pourquoi cet imprévu, pourquoi cette surprise, pouvons-nous vivre dans l'imprévu? C'est-à-dire, pouvons-nous concevoir que nous pouvons agir dans l'imprévu? Parce que si nous ne pouvons pas agir dans l'imprévu, c'est quand même assez désespérant. Et ça, c'est un peu... bon, on se laisse aller, on est là, le monde est imprévu, alors bon, je me laisse aller, je ne me fais plus rien, etc. Non, ce n'est pas ça. Donc, il y a un problème grave. Comment agir et assumer des responsabilités dans l'imprévu du monde, dans l'inextricable du monde, dans cette chose qui nous vient de partout à la fois et qui fait que nous ne pouvons plus définir un territoire. Quel est le territoire dans lequel nous sommes maintenant? C'est le territoire d'Avignon? C'est le territoire de la France? C'est le territoire de l'Europe? C'est le territoire de la Méditerranée? Nous ne pouvons pas définir avec rigueur notre situation dans le monde. Et ça c'est aussi une donnée nouvelle. Alors, le politique, c'était traditionnellement ce qui nous rassurait. C'est-à-dire que il y avait le combat pour la démocratie, par exemple en Angleterre, pour le système démocratique. Il y avait le combat pour le rationalisme. Il y avait le combat pour la conception providentielle et religieuse du monde. Il y avait le combat pour les libertés nouvelles et le socialisme. Il y avait le combat en même temps pour et contre, n'est-ce pas? Et il y avait toute cette série. Mais aujourd'hui, mais même si nous continuons ces combats-là, nous savons que ces combats-là n'intéressent plus directement le sort et la situation du monde. Alors, quel combat peut-on mener dans le sort et la situation nouvelle du monde? Alors, je vais essayer de, comme je vous répète, avec une pensée balbutiante, tremblante, pas sûre d'elle-même, qui me semble être la seule forme de pensée possible pour l'approche du monde. On ne peut pas approcher le monde avec des pensées systématiques, avec des pensées idéologiques. On a essayé et on a vu les catastrophes que ça a entraînées. Il faut palpiter du palpitement même du monde. Comme disait Aimé Césaire, n'est-ce pas? Il faut trembler du tremblement même du monde pour essayer de comprendre et de voir ce qui se passe en nous, autour de nous et avec nous. Alors, je conçois d'abord une totalité des lieux, puisque ça nous vient de partout. Et ce que j'ai essayé de construire jusqu'ici, c'est une poétique d'abord une poétique de la relation. Ça nous vient de partout, et il faut que nous établissions la relation entre partout et partout, entre tous les lieux et tous les lieux. Non pas entre un lieu qui serait le nôtre et d'autres lieux vers lesquels nous projetterions, mais entre tous les lieux du monde. C'est pourquoi je dis que cette poétique de la relation que j'essaie de défendre est intransitive. Ça veut dire qu'elle n'a pas d'objet particulier. Elle va de tous les lieux à tous les lieux. Et que chaque lieu est un différent. Alors, ça, c'est une idée qui m'est très chère et que je crois que je vais essayer de vous faire partager. C'est que le tissu du vivant et la toile des cultures ne sont pas imbriqués de semblables, mais de différents. Et ça, c'est une notion très, très précieuse. Parce que quand on imbrique le semblable au semblable, on clone. C'est un clonage. N'est-ce pas? Ça veut dire que l'entité qui est à qui on ajoute son semblable, cette entité n'avance pas, n'évolue pas, ne change pas. Et que le changement, c'est la loi même du vivant. Et que par conséquent, nous sommes obligés de dire, de considérer que le tissu du vivant et la toile des cultures sont constitués d'imbrications de différents. C'est ce qui est différent qui permet d'avoir comme résolution une troisième donnée. Alors, c'est quoi dans la chaîne, dans le tissu du vivant? C'est le métissage. Il n'y a pas d'autre considération que celle-ci. Le métissage est à des degrés infinis. Le métissage est entre une rive du fleuve et l'autre rive. Le métissage est entre une rue d'une ville et une autre rue. Le métissage est entre un pays et un autre pays. Le métissage est entre une race et une autre race. Le métissage est, etc. C'est tout ce qui est différent, quelle que soit la valeur de l'écart entre les différents. Et le métissage, c'est pas seulement un métissage de race. Le métissage, c'est le métissage de tous les différents, n'est-ce pas? Et si nous si nous essayons de concevoir ces métissages des différents, nous arrivons à quelque chose qui est que j'appelle la créolisation. La créolisation, c'est la rencontre, le choc, l'harmonie de tous les de différents qui s'attirent, se repoussent, se combattent, s'harmonisent, etc., avec un résultat inattendu. C'est l'inattendu du monde, l'imprévu du monde, avec un résultat inattendu, imprévisible, et qui dépasse les éléments constituants originels. Alors ça, c'est extrêmement important parce que c'est absolument ce que le raciste n'accepte pas. Le raciste peut accepter que vous soyez dans votre semblable à côté de lui, mais il n'accepte pas le mélange. Il n'accepte pas le fait de vous considérer comme un différent qui s'accorde avec sa différence. Il n'accepte pas ça. Ça, c'est le vrai racisme, n'est-ce pas? Et c'est une des conditions absolues de notre monde, parce que il faut dire que la propension raciste va augmentant dans le monde, n'est-ce pas? Que le refus de l'autre, et on peut dire la haine de l'autre, augmente dans le monde au fur et à mesure que les racistes considèrent qu'ils sont menacés, c'est-à-dire que la créolisation progresse. Toutes les villes du monde qui étaient des villes de créolisation, de Sarajevo à Beyrouth, etc., toutes les villes où il y avait des contacts, des communions, des rapports entre races, entre religions, entre cultures différentes, ont été systématiquement prises comme cibles par toutes sortes d'intégrisme dans des camps différents, parce que le raciste a peur de la résolution nouvelle qui pourrait surgir de décréolisation. Et cette situation fait que nous considérons aujourd'hui que ce sont là des éléments fondamentaux de ce qu'on appelle la mondialisation. On ne peut pas considérer la mondialisation si on ne la considère pas sous le double angle qui a amené les racismes en même temps qu'il a amené les créolisations, sous le double angle des colonisations et des capitalismes. Les colonisations se sont d'une manière inconsciente, involontaire, etc., ont amené la totalité monde. C'est les colonisations qui ont ouvert le monde, n'est-ce pas, qui ont fait qu'on a connu l'Asie, l'Afrique, etc. Et là, c'était souvent un sens unique, parce que l'Afrique n'a pas connu l'Europe, l'Asie n'a pas connu l'Europe, alors que l'Europe connaissait l'Afrique et connaissait l'Asie. C'était un sens unique. Mais ce sens unique n'était pas gênant, du point de vue qui nous intéresse, du point de vue d'une poétique du monde, parce que les cultures africaines et les cultures asiatiques et les cultures américaines ont pressenti, ont eu l'intuition de l'Europe, et ont eu l'intuition de l'Occident. Ont voulu, d'ailleurs, le plus souvent, répéter, imiter l'Occident. Ce qui fait que les colonisations ont constitué la totalité monde. C'est ce qui permet qu'aujourd'hui, moi, je puis être dans la même salle que vous. C'est les colonisations qui ont donné ça. Et les capitalismes, parce que les capitalismes, c'était la mise en évidence des richesses du monde et l'exploitation de ces richesses et la transformation de ces richesses en produits de consommation, pour tout le monde, entre guillemets, n'est-ce pas? Vous pensez bien que quand je dis pour tout le monde, que ce n'est pas vrai. Mais quand je dis pour tout le monde, ça veut dire que des produits bon, mettons, je ne sais pas, disons des choses jolies, c'est ça. L'avocat, le clou de girofle, bon, ce n'était pas connu. La pomme de terre, ce n'était pas connu. Et ça, transporté par les capitalismes, n'est-ce pas, et devenu produit de consommation, c'est-à-dire entré dans le quotidien des peuples, n'est-ce pas. Et ça, c'est quelque chose qui a permis une espèce de généralisation de la mondialisation. Alors, ces richesses arrachées au monde, extorquées au monde, avec le prix d'une pollution effrayante sur le monde, avec tout ce que ça entraîne, comme déforestation, comme mort des rivières et des fleuves, etc., etc., etc. Ces richesses sont transformées par les capitalismes et les techniques les plus modernes en produits de consommation. Et alors, le produit de consommation, c'est ce qui a en premier lieu unifié, c'est la mondialisation, unifier les habitants de la Terre. C'est-à-dire que un habitant privilégié du Danemark ou de Méditerranée est devenu un consommateur aussi bien que un Africain dépouillé, affamé, etc. Parce que même dépouillé et affamé, potentiellement, il est devenu un consommateur. Et ce que nous pouvons dire, c'est que dans la mondialisation d'aujourd'hui, nous sommes tous des habitants possibles, mais pas des habitants réels. Nous sommes tous des habitants possibles parce que nous avons tous au-devant de nous quelque chose à réaliser que nous n'avons pas encore réalisé, c'est-à-dire un partage du monde que nous n'avons pas encore fait. C'est-à-dire qu'il y a une partie du monde qui profite du monde et une partie du monde qui est opprimée et par le monde, mais que nous sommes tous oppresseurs ou opprimés ou neutres, parce qu'il y a une partie du monde qui est neutre et qui n'opprime ni n'est opprimé, nous sommes tous des habitants possibles et non pas des habitants réels, parce que nous ne sommes pas encore entrés dans cette poétique de la relation, dans cette poétique du monde, dans cette intuition et cette divination de la capacité monde qui est en nous et que nous en restons encore au stade de la non-consommation obligée ou de la consommation passive. Et il n'y a pas à l'heure actuelle dans le monde, nulle part dans le monde, il n'y a une poétique du rapport de l'homme aux richesses du monde. Il n'y a nulle part dans le monde, que ce soit dans les pays capitalistes ou dans les pays socialistes ou dans les pays, etc. Il n'y a nulle part dans le monde un rapport, une conception du rapport des humanités aux richesses du monde, un rapport véritable des humanités aux richesses du monde. On a deux possibilités là, revenir aux idées a priori, c'est-à-dire aux idéologies. Qui était formidable. Les idéologies avaient une grande une grande possibilité d'idéaliser le monde, n'est-ce pas? Pensez au nombre de communistes, des millions et des millions, qui ont donné leur vie pour un idéal qui était représenté par des tyrans comme Staline. Pensez au nombre de gens qui ont donné leur existence, leur vie, par idéal, n'est-ce pas? Quand on dit, bon, les communistes, c'est... Mais pensez aux 25 millions de Russes qui sont morts pour ça. Pensez à tous les Chinois, des millions et des millions qui sont morts par idéal. Alors, qu'est-ce qu'on, devant ça, qu'est-ce qu'on dit? On se dit, mais c'est pas possible que des gens aient pu sacrifier de manière si totale leur existence, l'existence de leur famille, de leurs enfants, etc., pour quelque chose qui était, dont nous pensons que c'était aujourd'hui, que c'était monstrueux, n'est-ce pas? Et on se dit, il y a là quelque chose qui est ceci. Il y avait une idéologie du monde, mais il n'y avait pas une intuition du monde. Il n'y avait pas une poétique du monde. Parce qu'une poétique du monde qui détermine une politique du monde et permet d'échapper aux raideurs, aux fixités et souvent aux atrocités de l'idéologie comme concept. Et quand je réfléchis à cette situation, au fait que nous sommes tous des habitants possibles de la Terre et non pas encore des habitants réels, ça ne veut pas dire que nous sommes des zombies, que nous sommes des fantômes, que nous sommes des... ça veut dire que nous n'avons pas encore assumer dans notre imaginaire le rapport réel au monde. Nous ne l'avons pas encore imaginé. Ça veut dire que nous sommes encore chacun... chacun a ses problèmes, c'est vrai. Chacun a ses... Non seulement ses problèmes individuels, mais aussi ses problèmes collectifs. Hein. Bon, quand il faut... réparer le système de répartition de l'eau dans une commune, eh bien, il faut réparer le système de l'eau dans une commune. Là, on ne va pas dire une poétique du monde ou une intuition du monde. Et il faut le faire, c'est un truc concret. Mais à partir de là, il faut faire autre chose. Il faut faire non seulement un système de conduite d'eau dans une... commune, et puis ne pas que ça ne donne pas l'occasion à un vol ou à un, etc. Mais il faut faire l'autre chose. Mon rapport à toutes les communes du monde, pas mon rapport à toutes les communes de mon pays, mais mon rapport à toutes les communes du monde, mon rapport à toutes les communes impossibles, à toutes les communes qui n'ont même pas un puits dans un désert, et mon rapport à toutes les communes, et par conséquent, et si je ne fais pas ça, eh bien mon travail pour l'installation de l'eau dans ma commune, c'est très bien, mais ça me coupe de mon travail de conception de ce que c'est que le monde dans lequel je vis, n'est-ce pas? Et le monde dans lequel je vis n'est plus régi par des grands courants de volonté poussés par des civilisations conquérantes. C'est ça la nouveauté du monde. C'est pas vrai que les États-Unis... les États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde, mais ils sont aussi fragiles que l'Empire soviétique. Ça peut s'effondrer en une journée. De même que l'Empire soviétique s'est effondré en une journée. Parce que les empires ne sont pas éternels. Alors là, je viens de Brick et de Brock, je viens à quelque chose qui m'est cher. La seule solution qu'il y avait pour la seule alternative au fascisme qui avait aux États-Unis, parce qu'il y avait une naissance du fascisme. N'oubliez pas que à la veille de la guerre, l'entrée en guerre des États-Unis, en Seconde Guerre mondiale, 78% des Américains pensaient que Hitler, c'était pas si mal que ça. S'il n'y avait pas eu Roosevelt, probablement les États-Unis ne seraient pas entrés en guerre. Comment il s'appelle celui qui a traversé l'Atlantique? Lindbergh. Lindbergh était un fasciste, etc. La seule alternative au fascisme, parce qu'il y a une forme, il y avait une forme de fascisme quotidien, domestique, paisible et d'autant plus terrifiant aux États-Unis, c'était la colonisation. C'était le métissage. C'était le produit inattendu, imprévu et nouveau. Et ce produit inattendu, imprévu et nouveau, c'était Obama. Il n'y a pas à sortir de là. N'est-ce pas? La seule possibilité pour cette énorme puissance de ne pas verser dans le fascisme, c'était d'aller du côté de la colonisation. Je dis ça depuis un an à mes amis noirs américains. Ils me disaient le plus souvent « non, ils ne veulent pas ». Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient qu'Obama n'était pas assez noir. De même que les Blancs pensaient qu'Obama était trop noir. La réalité, c'est que la seule possibilité d'esquive de cet énorme corps collectif des États-Unis, c'était ça, la colonisation, qui n'était pas encore faite et acceptée. Nous disons tous les jours qu'entre Little Italy et Chinatown, il y a une rue, et que depuis deux siècles, cette rue n'a jamais été traversée par personne. Il n'y a personne qui est allé de l'autre côté. Et que par conséquent, ce n'était pas la colonisation. C'était la juxtaposition de communautés qui partageaient le même idéal, le drapeau américain, le président des États-Unis, la Constitution, les pères fondateurs, etc. D'accord, partageaient tout ça, mais qui ne se mélangeaient pas. Ma femme et moi, nous avons vécu à Fort Lee, à côté de New York, dans un quartier où nous étions les seuls à ne pas être coréens. Tout le quartier était coréen. Et à Fort Lee. Et c'était extrêmement paisible parce qu'il y avait une mafia coréenne qui faisait la loi. Alors, personne ne vous attaquait dans les rues. Personne ne voulait parce que la mafia faisait... Comme à Harlem, comment il s'appelle, Farrakhan, à un moment, a fait la loi et a dit, bon, je veux plus de etc. Mais c'était des juxtapositions. Et maintenant, les États-Unis sont entrés dans la connaissance de l'imprévisible d'une colonisation. Parce que qu'est-ce qui entre à la la présidence des États-Unis. Quelqu'un qui est né aux États-Unis, mais qui a fait ses études, dont le père est kényan, dont la mère est blanche, qui a fait ses études en Asie, en Indonésie, en etc., qui a vécu en Afrique, qui a vécu aux États-Unis, qui a été la créolisation du monde. Non seulement la créolisation raciale, mais aussi la créolisation culturelle. Bon. Et je pense que ça, c'est un événement fondamental de l'histoire des humanités d'aujourd'hui. Je suis un peu déçu des dernières déclarations d'Obama. Parce que nous avons écrit un livre avec Patrick Chamoiseau qui s'appelle « L'intraitable beauté du monde » et qui étudiait le phénomène Obama. Mais nous avons dit qu'il se pourrait que la fonction même de président des États-Unis pervertissent la qualité de l'homme Obama. C'est possible. C'est possible qu'à exercer une fonction aussi importante et aussi absolue, on prenne de mauvaises habitudes. Ça, c'est possible. Mais ce qui est important, parce qu'il dit maintenant que l'Afrique, ce n'est pas l'Occident qui a fait de l'Afrique... qui a fait qu'en Afrique, il y ait des soldats enfants, qu'il y ait la misère ici ou là. Ce n'est pas vrai du tout. C'est la colonisation qui est... Bon. C'est embêtant. Mais ce qui est fondamental, c'est que l'élection d'Obama est un phénomène, c'est un acte. Ce n'est pas un acte politique, l'élection d'Obama. C'est un acte poétique. C'est-à-dire que c'est un acte par lequel la communauté des États-Unis cesse de vivre sur un non-dit fondamental qui était terrifiant. À savoir que les grands héros de cette histoire, fondateur de cette histoire, Washington, Jefferson, étaient des possesseurs d'esclaves. Et que, quand il disait « tous les hommes naissent libres et égaux », les nègres n'étaient pas dedans. Parce que c'était des possesseurs d'esclaves. Et que Jefferson, sur son lit de mort, a refusé de libérer, d'affranchir ses esclaves, sans doute dans l'intention louable de ne pas faire du tort à ses héritiers, de ne pas leur enlever leur héritage. Et qu'il a refusé. L'homme qui a fait la déclaration des libertés aux États-Unis a refusé d'affranchir ses esclaves sur son lit de mort. Et il y avait là un non-dit de l'histoire américaine qui était fondamental. On pouvait pas, une nation ne peut pas vivre avec ça éternellement. Et il est certain que l'élection d'Obama, c'est une manière de rattraper l'histoire américaine et de la compléter, de rattraper le non-dit et de compléter réellement cette histoire américaine. Et ce que je veux dire, c'est que... Je ne sais pas si je ne parle pas trop. Oui, je parle trop. On va s'arrêter peut-être, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, l'histoire ne se fait plus, le mouvement du monde ne se fait plus avec de grands continents envahissent le monde, qui le réalisent, comme les capitalismes et les colonisations ont réalisé la totalité monde, et qui l'exploitent, etc. Et les grandes civilisations aujourd'hui se transforment en des multitudes de cultures. Et ce sont des cultures limitées qui font mouvoir le monde, et non plus des grandes civilisations. Je dis depuis longtemps que la Chine va s'archipéliser, que les républiques périphériques de la Chine vont prendre vont se séparer du corps central. Ça commence ces jours-ci. Ça commence. Et que les États-Unis vont s'archipéliser. Déjà, la Californie, c'est la cinquième puissance économique du monde, en dehors des États-Unis. N'est-ce pas? Et le Texas va sûrement avoir une sorte de volonté de se séparer. Ça ne veut pas dire qu'ils vont être séparés, opposés, etc. Ça veut dire que le continent va s'archipéliser. Les États-Unis vont s'archipéliser. La Chine va s'archipéliser. Et ce qui se passe, c'est que l'Europe s'archipélise. L'Europe s'archipélise parce que, d'une part, des nations comme l'Allemagne ont toujours été des nations archipélisées, et que, d'autre part, des nations comme la France s'archipélisent aussi. N'est-ce pas ? De plus en plus, il y a des réalités culturelles fondamentales. Il y a des réalités méditerranéennes, bretonnes, occitanes, catalanes, corses, etc., etc., qui, de plus en plus, vont constituer des éléments. Et ce sont des petits pays. Je crois à l'avenir des petits pays. Si nous voulons résister aux méfaits globaux du capitalisme, pourquoi les capitalistes sont néfastes? Parce qu'ils produisent tellement de revenus à partir de l'exploitation des richesses du monde que ces revenus donnent lieu à des spéculations financières. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis. C'est ce qui s'est passé moins en France. N'est-ce pas? C'est pourquoi la France a un peu échappé à la crise. Mais ce qui s'est passé dans la crise, c'est que les bénéfices accumulés à partir de l'exploitation des richesses du monde ont donné lieu à des jeux financiers, à des paris financiers, à des qui ont marché, ça a produit, et puis un jour ça s'est cassé. Et je mets au défi qui que ce soit de dire pourquoi ça s'est cassé, parce que le système capitaliste, comme tous les systèmes mondiaux à l'heure actuelle, vit dans l'inextricable et dans l'inattendu et l'imprévisible. Et personne ne peut dire, je suis très amusé quand les pseudo-économistes les plus grands disent dans un an ça va s'arranger. Ça c'est la bêtise la plus totale. Ça peut s'arranger demain matin, mais ça peut rester comme ça pendant 20 ans. Parce qu'il n'y a plus de décision prévisible. On ne peut plus prévoir ce qui va se passer. Et à mon avis, notre seule possibilité de vivre dans cet imprévu et cet inextricable du monde, c'est d'organiser l'existence des petits pays. À mon avis, les petits pays ont plus d'avenir que les grands. Et les grands pays sont producteurs de catastrophes et les petits pays sont peut-être amenés à être producteurs de vie accordée à la vie du monde qui est au fond, on peut dire la chose de la manière suivante. Les grands pays sont des producteurs de catastrophes et les petits pays peuvent être des producteurs de réparation écologique et de réparation de coexistence et d'harmonie avec le monde. Et je crois que c'est ce que j'appelle une poétique de la mondialité réelle. Et je crois que c'est notre espoir à l'heure actuelle. Merci.